Bonjour Stéphane des Guides du Petit Futé.
Bonjour Marilyn.
Aujourd'hui, votre coup de cœur dans le Rouergue, c'est Sauveterre de Rouergue.
Absolument, on est entre Rodez et Albi, au cœur de Ségala, c'est le pays des eaux vives, des 100 vallées également. Sauveterre, c'est une des bastides parfaitement conservées que l'on trouve dans le Rouergue. Alors, c'est le roi de France, Philippe III le Hardi, qui a décidé de sa construction, donc c'est à la fin du XIIIe siècle, 1281 pour être exact, hein, je voyais que...
Voilà, on apprend des trucs. Hein.
Absolument. Et c'est que ce village, on va prendre plaisir à s'y balader. C'est un territoire qui mêle un côté très nature, une agriculture raisonnée, le respect des traditions, mais aussi un village vivant qui, bon, c'est pas seulement la carte postale.
Et une bastide, c'est quoi sa particularité?
Alors, c'est vrai que toutes les bastides du sud-ouest de la France sont construites sur un plan en damier. Mmh. Donc, en fait, on a toutes les rues qui reviennent sur la place centrale. Alors, d'accord. À l'époque, c'était pour une raison toute simple, c'était pour contrôler les citoyens.
Ah bon?
Tout le monde est obligé de passer par la place. Oui. Vous contrôlez plus facilement. C'est vrai que Sauveterre n'échappe pas à la règle. Donc, finalement, on ne se perd jamais. C'est aussi le point principal, puisque finalement, à finir sur la grande place, et c'est la place des arcades.
Comme on dit, tous les chemins mènent à Rome. Mais là, c'est à Sauveterre de Rouergue. Et côté visite, quel est le programme?
Eh bien, on va découvrir des maisons à pans de bois, des vestiges des fortifications. On a les quatre portes monumentales. Donc ça, c'est ce qui permet d'accéder à la bastide. On va aussi faire un tour à la collégiale Saint-Christophe qui date du XIVe siècle avec des dorures, un mobilier vraiment très riche. C'est vrai que ça a été, c'est le témoin finalement de cette, du faste qu'il y a eu dans la ville pendant plusieurs siècles. Et puis c'est vrai que, comme on surveillait tout, c'était l'époque. Il y a aussi les attaques. Le clocher servait de tour de défense et de surveillance.
Et la bastide abritait aussi des ateliers d'artisans.
Absolument. En fait, dès le XIVe siècle, la ville a ouvert plein de coutelleries qui étaient destinées à l'export. Alors aujourd'hui, l'artisanat reste vraiment très actif. On a un atelier de coutellerie Guy Vialis. D'ailleurs, on va retrouver vraiment les secrets de cet artisanat qui est très ancien. On assiste à la fabrication des sauveterres. Donc, c'est les fameux couteaux aux lignes vraiment droites, sobres. On a aussi plein de tanneries qui sont dans la bastide. Là, il faut plutôt aller à l'atelier Max Cardebartès. On a vraiment, on découvre pas mal de choses sur ce savoir-faire ancestral. Donc, il travaille le cuir, le transforme en l'envie. Donc, vous travaillez un peu tous les trucs de bureau, des étuis à couteau, des ceintures, des sacs. C'est vraiment une expérience sympa.
Le vrai artisanat.
Ouais, tout à fait.
Et quelles balades sont à faire dans les alentours alors?
Alors, les vallées de la campagne Sauveterrade sont vraiment parfaites pour les promenades en famille. Oui. On a quatre circuits de randonnée qui sont balisés. Le chemin nommé la Bastide Royale de Sauveterre, là, nous sillonne la ville et les chemins pavés. Donc là, c'est le plus simple quand on veut découvrir Sauveterre à son arrivée. C'est 9 km tout de même.
Quand même.
Ça vous prend quelques heures pour le faire. Mais ce que je préfère, en fait, c'est la vallée de Mergou. Là, on est vraiment, on entre dans une nature sauvage. Donc là, c'est tout ce qui entoure complètement la Bastide. Alors, c'est vrai que, en fonction la variante du niveau, vous avez entre 1h30, 3h de trajet. Donc, c'est vraiment une belle découverte, la ville, mais aussi la nature environnante.
En tout cas, c'est toujours des belles découvertes avec vous, Stéphane. Merci infiniment. On se retrouve demain.
Avec plaisir. À demain.
Merci, à demain.
Et merci en tout cas à vous deux pour cette nouvelle très belle balade. Allez, 7h23, bon réveil à tous, vous êtes bien dans le grand matin été de Sud Radio. On débute cette journée ensemble jusqu'à 10h avec tout de suite eh bien, l'agenda du jour de ce mercredi 18 août avec pas mal de choses, loisirs, c'est ça, culture, Marilyn, aujourd'hui?
Un peu tout, je vous emmène surtout pour une journée complète à Saint-Cyprien dans les Pyrénées-Orientales. Alors comment vous dire, on commence avec un indice.
La Queen. Donc un vélo,
bicycle. Bravo, mais bravo. On démarre la journée avec le pass vélo gourmand à Saint-Cyprien. On va pédaler avec un guide depuis le parvis de l'église de Saint-Cyprien Village jusqu'à la chapelle de Villeraze. Alors c'est une balade gourmande, un moment de découverte entre producteurs et consommateurs dans un cadre architectural et paysager. C'est tous les mercredis jusqu'au 25 août. C'est 8 euros la sortie adulte si vous avez votre vélo, sinon 15 euros avec le pass et c'est gratuit pour les enfants. Ensuite, on range le vélo. Bon, bon, après avoir travaillé les cuisses en douceur pour l'après-midi, donc je vous propose à Saint-Cyprien, bah, forcément soit la plage, ou bien vous pouvez aller à l'Aqualand, il y en a un en plein cœur de la ville, ou un petit tour de jet ski, il y en a pas mal sur la plage. Ou
ah, comme Emmanuel Macron du coup, c'est ça.
Exactement, vacances présidentielles,
oui.
Mais sans les soucis.
Oui.
Pour les plus naturistes, je le dis, si vous longez la plage en fait vers le sud en direction d'Argelès, il y a des plages de tout nu qui vous accueillent au bocal du Tech. Donc chacun,
d'accord,
ses goûts,
bah,
pour
si
l'après-midi.
Si vous avez une préférence, voilà.
Ah voilà, non, mais il y en a pour tous les
courant.
Goûts. Oui. Ensuite, la journée se termine, un apéro et hop, on part au deuxième indice. Non, c'est pas la garde républicaine.
Non, et là, je l'ai pas, là.
À 21h, place Mayol à la plage, ce sont les fanfares d'eau que vous pouvez découvrir,
okay.
Écouter et vous pouvez même danser. Ce sont des fanfares décalés de la région Occitanie. Mais bon, si vous préférez, Benjamin, une ambiance plus langoureuse...
Bah ça, j'aime bien, mais vous avez autre chose, oui. Plus langoureux, c'est quoi, alors
ouais, ça vous intéresse.
Bon, bah, alors, je suis plus fanfare, comme ça, dit comme ça. Mais bon, allez-y, j'attends de voir.
Bah, je vous propose ça. Alors celui-là, il est langoureux, un peu dynamique, mais c'est une démonstration de tango argentin, Esquina des Tangos, à 21h, place Rodin, à la plage, et c'est sans réservation. Alors voilà, vous avez la journée qui est terminée. Toutes les informations, vous pouvez les retrouver sur le site tourisme-saint-cyprien.com, et après, une douche et au lit.
Ah bah oui, là, on pourra bien dormir, effectivement, avec ce très beau programme que vous nous avez concocté. Merci beaucoup, Marilyn. Allez, 7h25 dans le Grand Matin été de Sud Radio. On se retrouve dans un instant pour les infos. Et puis, à suivre également, dans la foulée, un matin, un métier avec Jérôme Laverny. On accueillera un aspirant cordonnier. Bah oui, on met en avant tous les métiers manuels. C'est important. À tout de suite sur Sud Radio.
Merci d'aimer Sud Radio.
Vous êtes une voix utile.
Sud Radio, parlons vrai.
La météo de l'été Sud Radio.
Bonjour Rémi André, le temps est maussade aujourd'hui, c'est ça ?
Et c'est ça, exactement. C'est-à-dire que nous avons beaucoup de nuages sur une grande partie du pays. On va dire depuis les Hauts-de-France jusqu'aux Pyrénées, depuis la Bretagne jusqu'au Grand Est, sur toutes ces régions, beaucoup de nuages ce matin. Nous avons même quelques gouttes de pluie par-ci par-là, notamment depuis la Normandie, les Hauts-de-France, jusque vers le Jura et l'Allemagne. Et bien sur toutes ces régions, la grisaille va persister toute la journée. Nous retrouverons tout de même quelques éclaircies par-ci par-là, depuis la Bretagne jusque vers le Midi-Pyrénées, mais c'est surtout entre Toulouse et Lyon que ces éclaircies devraient apparaître, alors que vers la Méditerranée, là en revanche, on va garder le soleil aujourd'hui, du soleil et des températures plus agréables qu'ailleurs, car vers la Méditerranée, on se restera encore dans ce temps estival de 28 à 33 degrés. Attention, donc le Var sera toujours à plus de 30 degrés avec encore un peu de vent aujourd'hui, prudence. Sur le reste du pays, sous la grisaille, bien les températures auront beaucoup de mal à dépasser les 20 à 24 degrés de maximum, alors rassurez-vous, et il semblerait que cela va s'arranger pour cette fin de semaine.
Merci beaucoup Rémi André. Bon réveil ou bon courage si vous partez au travail. On est heureux d'être avec vous ce mercredi. Bienvenue sur Sud Radio, il est 7h30. Sud
Radio. Parlons vrai.
C'est l'heure des infos avec Léo Ardourel. Bonjour Léo.
Bonjour à tous. 4 pompiers blessés, dont un grièvement dans l'Aude. Les soldats du feu sont très sollicités dans le département où plusieurs incendies se sont déclarés hier, notamment dans les secteurs de Bizané et de Périac-de-Mer, près de Narbonne. Pendant ce temps, la situation est toujours compliquée. Aussi dans le Var, où 7000 personnes ont passé la nuit hors de chez elles. Elles ont dû être évacuées de leur maison ou de leur camping à cause de l'avancée des flammes qui ont parcouru près de 7000 hectares depuis lundi dans le massif des Maures. Les évacuations se poursuivent. Depuis Kaboul, l'armée américaine a sorti du pays près de 2000 réfugiés afghans et 3200 autres personnes depuis ce week-end. En France, 41 premiers exfiltrés sont arrivés hier à Paris. La France qui souhaiterait rapatrier encore quelques dizaines d'Afghans ayant collaboré avec l'armée française, selon la ministre Florence Parly. De leur côté, Joe Biden et Boris Johnson convoquent une réunion virtuelle du G7. Le président américain et le premier ministre britannique veulent discuter d'une stratégie et d'une approche commune sur la situation en Afghanistan. Le gouvernement britannique se dit prêt à accueillir 20 000 réfugiés afghans, dont 5 000 dès cette année. Le bilan du séisme s'alourdit en Haïti. La secousse a fait plus de 1 900 morts et près de 10 000 blessés. Plus de 60 000 maisons ont également été détruites. Les habitants doivent dormir dehors et en plus faire face désormais à de violentes précipitations qui pourraient provoquer par endroits des inondations majeures. L'Union européenne a annoncé hier qu'elle allait apporter sur l'île une aide humanitaire d'un montant de 3 millions d'euros. L'adjoint écologiste à la mairie de Paris, David Belliard, dépose plainte. Il a reçu une lettre dans laquelle un mystérieux corbeau menace de s'en prendre à lui physiquement s'il ne supprime pas les coronapistes, ces pistes cyclables mises en place dans la capitale depuis le premier confinement. Et puis en foot, Monaco devra se battre pour aller chercher la qualification en Ligue des Champions. Hier, les Monégasques se sont inclinés 1-0 à domicile lors du barrage aller face au Shakhtar Donetsk. Voilà pour l'actualité. Très bonne matinée à tous.
Merci beaucoup Léo.
Merci Léo.
Sud Radio, le grand matin été, 7h-10h. Benjamin Glaise, Marie-Line Hérault.
7h32 sur Sud Radio, bienvenue et bonjour à vous qui nous rejoignez. Vers 7h50, je vous emmènerai un peu dans la nature avec Jean de Rideau dans Ça va mieux en le disant. Ça va nous faire un peu de bouffée et d'aération d'esprit, tout à fait.
C'est important, effectivement, puisque juste avant dans le coup de fil du matin, l'actualité, hein, bien sûr, avec en l'occurrence cette actualité qu'on a décidé de mettre en avant ce matin. C'est ce centre de vaccination qui a été vandalisé près de Toulouse, à Saint-Orens de Gameville. On sera avec la mère sur place, avec des dégradations notamment sur des ordinateurs, sur des chaises fracassées, des vitres aussi, et puis des doses du vaccin qui ont été jetées par terre. Voilà, donc
c'est pas le premier.
Avec un lourd préjudice. Oui, c'est vrai qu'il y a une tension qui est très forte, très importante, on le sait, sur la question des vaccins qui se matérialisent de plus en plus par des actes de vandalisme. C'est important aussi de pouvoir en parler de ce sujet-là. Mais tout d'abord, avant cela, eh bien, c'est hashtag On en parle sur Sud Radio et c'est avec Clément Barquin.
Hashtag On en parle sur les réseaux sociaux, une vidéo devenue virale à l'origine d'une vague de démissions aux États-Unis.
Ouais, je vous propose d'écouter.
The managers, this company, this position.
J'emmerde les managers, j'emmerde cette entreprise,
ah bah
j'emmerde ce poste, je démissionne. Voilà ce qu'on peut entendre dans, dans cet extrait. Elle s'appelle Shanna Blackwell, l'employée d'un magasin Walmart. Elle a décidé de démissionner en utilisant le haut-parleur de son lieu de travail. Elle dénonce notamment les comportements sexistes de ses collègues.
You are all perverts. And I hope you don't talk to your daughters the way you talk to me.
Vous êtes tous des pervers et j'espère que vous ne parlez pas à vos filles comme vous me parlez. Avec cette vidéo, Shanna Blackwell vient de lancer une tendance sur TikTok avec le hashtag Quit My Job.
Et depuis cette publication, des centaines d'internautes partagent le moment où ils ont démissionné.
Ouais, beaucoup affirment que la pandémie a provoqué une prise de conscience, que la santé mentale est désormais devenue une priorité. Avec ce désir de changer de vie, de faire des choses qu'on aime, mais surtout être heureux au travail. 21 millions de personnes aux États-Unis ont volontairement quitté leur emploi entre juin 2020 et juin 2021. 21 millions.
Des experts ont surnommé
cette nouvelle tendance la grande démission. Une tendance qui inquiète les chefs d'entreprise américains, bien obligés de se remettre en question. Le constat, il est là. Il faut un nouveau management, de l'empathie et se préoccuper du bien-être des salariés. Eh bien, il était sans doute temps d'y penser.
Oui. Et à la une de la presse régionale et nationale ce matin, les incendies qui sévissent dans le sud de la France.
Le Var dévasté, titre Le Parisien aujourd'hui en France. Le sud flambe, titre Midi Libre. Le Var en feu et en cendres pour la Marseillaise. C'est le pire incendie de l'été en France. Et l'un des pires de ces 10 dernières années subies dans le Var. Depuis lundi, l'arrière-pays de Saint-Tropez est en proie aux flammes. Plus d'un millier de pompiers luttent pour fixer l'incendie. Le vent a soufflé très fort ces deux derniers jours avant de retomber hier soir. 7000 personnes ont dû être évacuées par sécurité ou parce que leur habitation était menacée. Et pour les mettre à l'abri, 15 centres d'accueil ont été activés sur les 8 communes du littoral varois. Selon les pompiers, la situation n'est plus alarmante, mais elle reste préoccupante avec quelques foyers inquiétants. Le feu a parcouru près de 7000 hectares. Environ 1000 pompiers mobilisés toute la nuit avec 225 véhicules. Et puis, outre l'incendie du Var, plus de 300 pompiers combattent toujours un incendie dans la région de Baume-de-Venise, dans le Vaucluse. L'Aude n'est pas non plus épargnée. 90 hectares partis en fumée, mais le feu est maîtrisé selon les pompiers.
Et dans la presse ce matin, on parle aussi de ces centres de vaccination vandalisés.
Oui, on en parlera tout à l'heure. Hein, de centres de vaccination attaqués, peut-on lire en gros titre dans la Dépêche du Midi à Saint-Aurin en Haute-Garonne et à Saint-Céré dans le Lot, des dégradations qui ont été commises et des milliers de doses de vaccins qui ont été détruites. À Saint-Aurin, au sud-est de Toulouse, le centre a été vandalisé dans la nuit de lundi à mardi. Peu après minuit, plusieurs individus ont brisé la porte d'entrée du bâtiment, certainement à l'aide d'un pied de biche. Puis ils se sont introduits à l'intérieur. En quelques minutes, près de 3500 doses de vaccin Pfizer auraient été détruites. C'est l'équivalent de près d'une semaine de vaccination. Les suspects ont également cassé le matériel informatique, détérioré les box où sont accueillis les patients. Une plainte a été déposée par la préfecture. Les auteurs sont toujours dans la nature et vous recevrez, pour en parler tout à l'heure, la maire de Saint-Aurin. Ça s'insérait au nord de Cahors cette fois. C'est du matériel informatique, ainsi que trois ordinateurs qui permettent de délivrer les passes sanitaires qui ont été dérobées. Les doses de vaccins, elles, n'étaient pas stockées à l'intérieur du centre.
Passe sanitaire d'ailleurs pour lequel il n'y a plus de tolérance dans les cafés et restaurants.
Oui, ça y est, la période de pédagogie est terminée. Depuis lundi, les contrôles se multiplient avec un bilan assez amer dressé par le Perche. Les cafés dans l'impasse, peut-on lire à la une du quotidien. Avec le passe sanitaire, les cafés ont perdu 50% de leurs clients. Entre ceux qui contrôlent à la lettre et les autres, la tension commence à monter. C'est un reportage que l'on peut retrouver dans le journal Le Perche.
Et aussi les restaurateurs qui partent en guerre contre les assureurs.
Restaurateurs et assureurs à couteau tiré, titre Libération. Libération qui propose une grande enquête face à des compagnies d'assurance qui refusent de les dédommager pour les pertes dues à la crise sanitaire. Les professionnels de la restauration et de l'hôtellerie sont décidés à en découdre et en appellent à la justice. Un bras de fer à 2 milliards d'euros avec les juges pour arbitre. Une enquête qu'on peut retrouver ce matin dans Libération.
Merci beaucoup Clément Barguin. Sur Sud Radio, tous les jours, on met à l'honneur un métier manuel avec Jérôme Lavernier et vous, Benjamin. C'est tout de suite un matin, un métier.